Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Mehdi Johnson. Salut Mehdi, comment tu vas ?
Ça va, et toi ?
Bah ça va super, merci. Tu avais donc une ou plusieurs anecdotes à nous raconter ?
Oui, plein d'anecdotes, de galères, d'humoristes, d'êtres humains qui fait de l'humour. Là, en ce moment, l'humour est fermé. Pour repasser plus tard.
Nous, notre envie de faire rire, elle est toujours là, mais malheureusement, on n'a plus le moyen de le faire, quoi.
Ouais, c'est sûr.
On s'occupe comme on peut, et d'ailleurs, j'invite les gens à écouter ton magnifique podcast L'Étranger. Tu avais d'ailleurs, je crois, reçu un prix pour ce podcast.
C'est moi, L'Étranger. J'ai pas reçu de prix. J'ai été sélectionné parmi les meilleurs podcasts francophones dans un festival. C'est le Paris Podcast Festival.
Ah ben, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît.
Ouais, c'est déjà... J'étais en face de RFI, de Radio-Canada, il n'y avait que des gros podcasts. Puis il y avait moi, ma petite vignette avec moi, L'Étranger, tout seul, là, j'étais là. Avec des... c'est la petite souris face aux éléphants.
Mais en tout cas, tu sais, même si tu n'as pas gagné le prix, pour moi, tu l'as gagné. Parce que j'ai écouté tous les épisodes de ton podcast et c'est vraiment très intéressant parce que tu racontes l'histoire d'un... ton histoire, hein, bien sûr, ce n'est pas inventé. C'est ton histoire, c'est l'histoire d'un Marocain qui arrive en France et qui doit se débattre entre l'administration, le travail, les gens autour de lui, l'humour, tellement de choses, quoi. Et je trouve que c'est vraiment très émouvant. Toute l'ambiance y est, tu vois, avec la petite musique émouvante et tout. Moi, je trouve qu'il est vraiment très bien fait, ce podcast. Je te le dis avec le cœur, mon frère. Je trouve qu'il est vraiment bien fait. Et j'ai été un petit peu déçu, tu vois. J'ai vu qu'on arrivait sur la fin, là. J'ai été un petit peu déçu de pas avoir d'autres épisodes. Mais en même temps, vu que c'est ta vie, tu peux pas inventer des épisodes, tu vois. Je comprends tout à fait.
Oui. On va pas tout raconter. Il y aura d'autres projets, puis... C'est l'histoire de mes galères d'étranger, comme quoi je me sens tout le temps étranger. Puis là, c'est marrant parce que toi, ton podcast, c'est galère d'humoriste. Ben moi, le fait d'être étranger, ça m'a mis des galères d'humoriste parce que parfois, tu dois jouer, tu dois être payé, tu dois voyager, mais t'as pas de papier, t'as pas de quoi facturer, t'as pas de...
On n'y pense pas, mais clairement, si jamais quelqu'un m'appelle pour jouer dans un pays, je ne me prends pas la tête, tu vois, je sais que j'ai mon passeport, machin. Mais quand on est quelqu'un qui attend encore, qui a une carte de séjour, qui n'a pas encore de carte nationale, c'est pas pareil, tu vois. Quand tu es en attente de papier, quand tu as juste des récépissés, tu fais récépissé sur récépissé, tu ne peux pas quitter le territoire sans avoir la peur de ne pas pouvoir revenir, quoi.
Exactement. Ben moi, j'y suis arrivé, mais c'était très compliqué. Justement, je t'avais raconté, c'était par Messenger. J'avais joué au Congo Brazzaville et j'avais une super opportunité, mais j'étais en plein renouvellement. Et en gros, il me fallait un visa aller, un visa retour, plus tous les vaccins, tous les paperasses, et j'ai failli abandonner. Et c'est ma copine qui m'a dit non, tu vas foncer, tu vas appeler ton avocate, aller à la préfecture, trouver des solutions. Parce que tu as une super opportunité de jouer dans un festival international d'humour. Tu ne vas pas te laisser détruire tes rêves pour un papier, pour la préfecture, parce que le renouvellement tarde, etc. Ça, c'est une galère d'étranger qui m'a fait une galère d'humoriste. Mais du coup, voilà, c'est les rendez-vous. Tu te renseignes, tu vas à la préfecture, tu demandes des conseils à ton avocate, etc. Tu arrives à réaliser... ce rêve qui n'était pas un rêve, mais qui l'est devenu par la force des choses, et d'aller jouer dans un pays à l'autre bout de la terre avec un passeport et des visas.
Mais c'est quand même beau. Et puis, heureusement, je veux dire, c'est pas tu t'es dit j'y vais et puis advienne que pourra. Non, non. Tu es parti quand même te renseigner avec ton avocate, tu es parti à la préfecture. Tu as quand même préparé ton voyage finalement.
Oui, ben après, c'était soit ça, soit je suis coincé au Congo Brazzaville avec comme meilleur des cas se retrouver au Maroc et pire des cas rester au Congo. Donc voilà, moi j'aime, j'ai beaucoup aimé le Congo. Voilà.
On embrasse tous les Congolais qui nous écoutent.
Moi, j'aime beaucoup le Congo, mais j'avais pas de projet trop là-bas. Enfin bref, après voilà, j'ai construit un peu ma vie ici, en France. Donc voilà, après c'est vrai qu'il faut faire attention à ne pas se retrouver coincé dans un endroit où on n'a pas prévu.
Oui, mais quelque part, est-ce que tu n'as pas raté une carrière? Est-ce que tu ne penses pas que tu aurais pu sortir un podcast là-bas qui s'appellerait « Le doublement étranger »
Peut-être, hein, je pense. Hein.
Tu as raté quelque chose.
Et en plus, j'ai plus de notoriété à Brazzaville qu'à Paris, qu'à Casablanca. Donc, je me dis que j'aurais pu lancer ma carrière plus facilement là-bas.
Ah ben, très certainement, très certainement. Mais en tout cas, oui, j'imagine que tu parles du festival Tuceo.
Oui.
J'en ai beaucoup entendu parler de ce festival et franchement, c'est un des meilleurs trucs qui est organisé et tout parce que les gens sont là pour rire, ils donnent de l'énergie, ils sont accueillants parce qu'ils savent que c'est des personnes qui viennent des quatre coins de la francophonie, entre guillemets, qui vont venir jouer chez eux. Et il y a un amour de l'humour, en fait, qui fait que tu passes des moments magnifiques. Toi, tu avais joué combien de soirs là-bas?
Moi, j'ai joué le dernier soir et j'ai enchaîné le lendemain pour la soirée des partenaires à l'ambassade de France de Brazzaville. Et en gros, j'ai fait deux nuits blanches. Donc, j'ai joué, je crois que c'était le vendredi soir et j'ai enchaîné en jouant le samedi soir. Et après, je suis rentré en France.
D'accord, mais c'était quand même kiffant, quoi.
Oui, oui, c'était kiffant, sauf que j'ai pas dormi pendant une semaine, mais sinon, c'était kiffant. T'as une énergie et une adrénaline, c'était horrible. En plus, moi, comme tu me connais, je suis très ouvert, j'avais envie de me mélanger, de me mixer. Donc, j'étais dans une chambre avec un ami gabonais qu'on s'est super bien entendu. Sauf que cet ami gabonais, il a joué le premier jour et il ronflait super fort. Donc, je peux te dire, mec, que j'ai pas dormi. Lui, il n'avait plus de stress vu qu'il a joué le premier jour. Et du coup, moi, j'ai passé des nuits blanches. En plus, tu sais, c'est une zone tropicale et on était à la saison des pluies. Donc, il faisait très chaud et très humide. T'as les moustiques, t'as la moustiquaire, enfin c'est technique pour dormir. Tu mets la clim parce qu'il fait super chaud, sauf que la clim elle fait un bruit méga fort, du coup t'arrives pas à dormir, du coup tu mets la clim puis tu l'éteins pour dormir. Ben c'est technique, quoi.
D'accord. Et en plus, les ronflements ne devaient pas aider, ouais, c'est sûr.
Ouais, et puis les ronflements, je cherchais sur mon portable comment dormir quand quelqu'un ronfle à côté. J'essayais de le pousser, de le réveiller, puis de me rendormir. C'était technique, quoi.
Eh bien, tu sais quoi, moi, j'ai deux anecdotes. Tu viens de me les rappeler. J'ai deux anecdotes par rapport au ronflement. Premièrement, c'était quand j'étais joué à Poitiers. J'ai été dans un festival là-bas. Et donc, à Poitiers, j'étais avec un ami qui était dans le podcast aussi, d'ailleurs. J'en profite pour le saluer. C'est mon ami Fabrice Lamour. Super gentil et tout, vraiment génial. Un mec vraiment super sympa. On s'est retrouvés à dormir chez les mêmes bénévoles, qu'on salue également. Et donc, il m'a dit... par politesse, tu vois, genre on s'est regardé tous les deux parce qu'on est arrivé dans la chambre, il y avait un lit et un tatami, une espèce de tatami, tu vois, c'est quoi ?
Oui, oui.
Voilà, donc l'espèce de lit à la japonaise, là, l'espèce de couche très, très fine comme ça pour dormir dessus. Et moi, je me suis dit, bon, il est plus, comment dire, c'est mon aîné, quoi. Par respect, je vais le laisser dormir dans le lit. Je lui dis, vas-y, prends le lit, c'est pas grave, je prendrai le tatami. Et il m'a dit oui. Et en fait, je pense que j'ai commis une erreur. Parce que je ronfle surtout quand je dors mal. Donc, en prenant le risque de mal dormir, j'ai pris le risque de ronfler. Ce qui s'est passé, c'est que juste avant de dormir, Fabrice m'a dit, je te préviens, je ronfle. Et je lui ai dit, je te préviens, moi aussi. Donc, normalement, on allait se ronfler dessus l'un l'autre, c'était réglé, tu vois. Sauf qu'à un moment, je me réveille genre à minuit, je l'entends ronfler, mais comme une tondeuse à gazon, vraiment fort et tout. Et là, j'arrive pas à dormir, je me retourne dans tous les sens, j'arrive pas à dormir jusqu'à 1h, 1h30 du matin. Et après, je me rendors, tu vois. Et le matin, je me lève. Il était déjà levé, lui, avant moi et tout. Je pars prendre ma douche. Et tu sais, sous la douche, des fois, tu fais des plans. Tu dis, tu sais quoi, dès que je sors de la douche, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et ben là, c'est ce que j'ai fait. J'étais sous la douche et je me disais, tu sais quoi, dès que je sors, je vais le mettre minable. Je vais aller à la table devant tout le monde. Je vais lui mettre la honte parce qu'il ne m'a pas laissé dormir, tu vois. Je termine ma douche. Je sors comme ça. Et j'arrive genre à la table, j'étais prêt à dégainer, tu vois, faire vraiment Fabrice, t'as abusé. Et à ce moment-là, il me regarde avec des yeux emplis de... Tu vois, t'as déjà vu l'envie de meurtre dans des yeux ou pas ?
Oui, je pense, ça a dû m'arriver, oui. Pas voilà. Sur moi, enfin, j'espère, mais...
Ah non, mais vraiment, une envie de meurtre dans ses yeux. Et il me regarde, il me fait, toi, toi. T'sais, je lui fais, quoi, moi? T'sais, il a cassé mon effet, tu vois, parce que moi, j'allais lui mettre la honte. Et en fait, il me dit, toi. Et je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, t'as ronflé toute la nuit. Je dis, tu te moques de moi? Je dis, c'est toi, t'as ronflé de minuit à 1h30 du matin, tu m'as pas laissé dormir. Et il me dit, oui, c'est les seuls moments où j'ai réussi à dormir, justement. Tu vois? Donc vraiment, il m'a mis la honte et tout. Et du coup, moi qui partais conquérant, tu sais, j'étais prêt vraiment à tout défoncer, tu sais, lui mettre la honte, bien sûr, toujours sur le ton de l'humour. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et vraiment, pour déconner et tout, il a tout cassé. Du coup, j'ai baissé la tête comme ça et je suis parti beurrer mes tartines, tu sais. Ça m'a cassé dans mon élan, mais c'est pas grave. Donc ça, c'est la première anecdote. Deuxième anecdote, c'est une fois, je suis parti dans un festival, en fait, qui mêlait l'humour et la musique, tu vois. Et je suis parti avec des amis et tout. Et moi, je dormais, en fait, on était quatre, on dormait donc deux par deux. Et moi, je dormais avec le guitariste. Il y avait un guitariste. Et le gars, il me dit, je te préviens, je ronfle. Et je dis, bon, je te préviens, moi aussi. Tu sais, moi, je préfère prévenir aussi, tu vois. Et il me dit, mais vraiment, moi, je ronfle fort. Je dis, OK, ben, écoute, on verra bien. Moi, Dieu merci, j'arrive à m'endormir quand même. Sauf que là, vraiment, et j'en profite pour le saluer, c'est quoi les ronflements, les miens, les ronflements de Fabrice Lamour, tout ça? C'était rien, c'était du silence à côté de ses ronflements à lui, tu vois. Ce qui s'est passé, c'est que l'organisatrice qui s'appelle Sandra, j'en profite pour la saluer, Sandra, en fait, nous a dit, vous inquiétez pas, j'ai prévu des boules qui est, parce que je sais que vous ronflez tous les deux, parce qu'on l'avait prévenu, tu vois. Et elle a dit, j'ai prévu des boules qui est. Sauf que du coup, elle est partie dormir dans une autre chambre et elle n'avait pas besoin de boules qui est. Quand il a commencé à s'endormir, moi, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, il ronfle, bon, bah, je vais essayer de dormir quand même. J'ai essayé et je te jure, j'ai pas réussi. Et pourtant, j'ai le sommeil lourd, hein. J'ai pas réussi à m'endormir, mais vraiment, c'était incroyable. Et il y a une technique, je la donne aux auditeurs si jamais ça peut marcher pour eux. Il y a une technique, c'est que quand quelqu'un ronfle, en fait, il faut le faire bouger un peu, tu vois. Genre, c'est pas genre tu le réveilles complètement.
C'est ce que je faisais, mais le temps qu'il se retourne et qu'il bouge et c'est reparti, tu en as, il s'endorme super vite.
D'accord.
Moi, je mets temps à m'endormir, mais une fois que je dors, c'est bon. Mais pour partir de l'autre côté, c'est méga galère.
Ça dépend des personnes, tu vois. Moi, je sais qu'en général, quand tu me bouges, je vais bouger un peu et le fait de changer de position va faire que je vais arrêter de ronfler. Là, j'ai essayé avec lui. Il n'y avait rien à faire. Rien à faire, vraiment. Hein. Et j'arrivais pas à dormir, mais c'était, je te jure, c'était un bruit. J'avais jamais entendu quelqu'un ronfler.
Même avec les boules caisses et tout ça, là.
Non, ben justement, je les avais pas à la base. Moi, je pensais que j'en aurais pas besoin, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est que genre une heure après avoir essayé d'aller dormir, j'ai appelé Sandra sur son portable. Je lui demande encore pardon dans ce podcast. J'en profite pour lui redemander pardon. J'ai dû l'appeler, la pauvre. Je l'ai réveillée en pleine nuit. Je lui dis, Sandra, je te demande pardon. Je n'arrive pas à dormir. Est-ce que tu peux me filer tes boules quies? Et elle m'a donné ses boules quies parce qu'elle n'en avait pas besoin. Donc, elle me les a données et j'ai dormi. Et je te jure qu'avec les boules quies, j'entendais encore le ronflement, mais je l'entendais au niveau Fabrice Lamour. Donc, ça va.
Ok, bah ça va, c'est cool.
Ça avait baissé parce que je te dis, j'ai réussi à dormir avec Fabrice, tu vois. Là, c'était franchement, je l'entendais, mais allez, si tu te concentres sur le sommeil, tu vas réussir à le trouver. Mais sans les boules qui est, impossible. Et du coup, j'ai dormi et le lendemain au petit déjeuner, bon, je lui ai pas fait toi, je lui ai pas fait ça, tu vois.
Méchant.
Non, franchement, je lui ai dit, vraiment, j'ai réussi à dormir, grâce à Dieu, je suis content, il y avait les boules qui est, merci encore Sandra. Mais je lui ai dit, mais. Comment fait ta femme, en fait? Et il m'a dit, ma femme, elle est habituée. Et je ne sais pas comment
elle a fait. Ma femme, elle est sourde. Elle n'entend pas.
Non, pas du tout. Mais je pense qu'elle est habituée. Donc, elle doit sûrement s'endormir avant lui. Ou alors, elle a la technique pour le réveiller. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était quand même très, très marrant. Moi, ça m'a fait rigoler sur le moment. Et c'est pour ça que je le raconte dans le podcast, tout simplement. Donc, mais il faut s'organiser, on est obligé. Et donc, toi, comment tu t'es organisé? T'as pas réussi à dormir au final?
Non, mais moi, pendant une semaine, j'ai clairement pas dormi. En plus, tu sais, je prenais le traitement pour le palu. Avant d'aller au Congo, j'ai dû faire la fièvre jaune. J'ai fait l'hépatite C que j'avais pas fait avant. Donc, t'es en mode vaccin. Après, tu prends des médicaments contre le paludisme qui te retourne le ventre. Et tu manges bien et il fait chaud. Et t'as quelques activités, donc t'es vraiment dans un truc intense où il faut être concentré. Ben moi, je crois que je dormais pas. Hein. Je devais m'endormir parfois, dormir 2-3 heures. J'étais tout le temps fatigué. Mais après, tu sais, t'as l'excitation de la scène, de la découverte. Au Congo, tu as plein de noirs. Du coup, tu vois plein de noirs. Tu parles à plein de gens. T'es content. J'ai adapté un peu mon spectacle avec de l'ingala, Donc, tu es dans une excitation pendant une semaine. J'étais dans une excitation qui a fait que, bah oui, je dormais pas, mais je kiffais. Mais après, d'accord, quand je suis rentré en France, j'ai rattrapé un peu, quoi.
Ouais, j'imagine. Par contre, je pense que tous les auditeurs sont comme moi. On se pose la question de pourquoi tu dis il y avait beaucoup de noirs, tu vois plein de noirs. Ben, enfin, j'ai pas compris.
c'était une petite. Ben, en fait, parce que là-bas, pour le coup, t'as vraiment beaucoup de noirs. Et pour eux, nous, les Arabes, entre guillemets, pour eux, on est des blancs. Quand j'allais dans le marché, on m'appelait le blanc. et moi j'étais là, c'est surtout les gosses, et moi j'étais là, j'avais envie de leur expliquer, mais non, je suis pas blanc, je suis comme vous, j'ai des origines noires, je suis marocain, maghrébin, africain, mais pour eux, tout ce qui n'est pas noir, c'est blanc, sauf les Libanais, parce que tu as beaucoup de Libanais en Afrique subsaharienne en général. Mm-hmm. Donc c'était intéressant.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Puis quand tu vois toutes les problématiques de racisme qu'il y a en France, et c'est marrant quand tu vas en Afrique, bon là on va dans un, c'est plus galère d'humoriste, mais c'est sociologiquement c'est intéressant.
D'accord. Non mais t'inquiète pas, on vient de passer sur galère de rebeu là, il n'y a pas de souci. Donc oui, raconte-nous.
Oui, bah donc là-bas tu te rends compte qu'il y a aussi beaucoup de racisme entre les Noirs et entre eux. Puis enfin tu découvres d'autres choses, que là on se dit oui c'est les Noirs, c'est les Arabes en France. En fait, en Afrique et partout dans le monde, il y a du racisme entre les ethnies, les familles, les religions. Enfin, je pense que c'est vraiment le manque d'ouverture et la peur de l'autre, l'ignorance.
Bien sûr.
C'est intéressant du coup de voir ces problématiques-là dans un pays qu'on ne connaît pas et qu'on pensait, entre guillemets, à l'abri de ces questions-là.
Du racisme. Eh ben oui. Mais je ne sais pas si tu connais un humoriste américain qui s'appelle Tom Segura.
Non.
Il a 3 spectacles sur Netflix, ils sont vraiment excellents, je vous les conseille. Et en fait, il a parlé d'un truc, il a parlé de racisme par rapport aux différents peuples, tu vois, d'Asie. C'est-à-dire qu'il était avec un Japonais et il y avait un Philippin qui venait, tu vois. Et les Philippins sont, tu vois, ils sont typés plus basanés, tu vois, un peu plus basanés. Alors que les Japonais sont plus, entre guillemets, blancs, tu vois. Et donc, il disait pourquoi, tu sais, il lui a dit genre pourquoi vous l'aimez pas lui, tu vois, parce qu'il sentait qu'il y avait quelque chose, il l'aimait pas. Et le Japonais l'a regardé et lui a montré le, tu sais, genre le geste du visage là, tu sais, genre c'est à cause de son visage, tu vois. Et c'était incroyable parce que il venait d'assister à un racisme entre différentes ethnies d'Asie, alors que, comme tu viens de le dire, on penserait que justement le racisme à la base c'est plus un problème de des occidentaux entre guillemets contre les gens qui ne sont pas de leur couleur, mais en fait pas du tout. Dans le même peuple, regarde nous au Maroc, nous par exemple au Maroc, on a des gens qui sont marocains pourtant 100% marocains et qui sont noirs. Leur peau est vraiment très très noire et tout, et justement ils souffrent de racisme à ce niveau-là, tu vois. Il y a des gens, il y a de tout en fait, il y a de tout malheureusement. Je pense que dans tous les pays en fait, dès qu'on est différent en fait, il y a de l'intolérance et du racisme. C'est dommage.
Oui, oui, et parfois même quand on n'est pas différent, mais qu'on n'a pas la même religion, ça crée aussi des tensions. Mais bon, après, il ne faut pas non plus généraliser. Moi, j'ai des amis de toutes couleurs, de toutes origines, on se kiffe, on rigole bien. Mais après, c'est vrai, quand tu regardes la télévision, quand tu t'intéresses un peu à la géopolitique et tout, tu as l'impression qu'on ne s'aime pas, qu'on se déteste. Mais bon, après, ça, c'est... galère de terrien, ça, c'est plus... on va recadrer le débat.
C'est clair que on se doute pas, mais en fait, le racisme et l'intolérance se trouvent partout. Et donc, pour recentrer le débat, donc tu as d'autres anecdotes de scène, tout ça ?
Oui, ben moi, tu sais, je sais pas si tu as connu ça à Paris ou si vous avez ça à Bordeaux, mais nous, on a, enfin, quand les salles étaient ouvertes, quand on pouvait jouer, on a les chichas, les salons de narguilé.
Bien sûr, j'ai commencé là-bas, moi.
Et en fait, tu sais, je sais pas si à Bordeaux c'est pareil, mais nous, à Paris, c'est le seul endroit où tu es super bien payé, mais où tu prends cher.
Ben, nous, tu prends cher, t'es pas forcément bien payé.
Ah, mais nous, c'est le modèle économique, c'est minimum 100
Ouais,
euros. Et
c'est ça,
plus
c'est
t'es
ça.
connu, plus tu as de la notoriété, entre guillemets, plus tu peux être mieux payé, sachant que sur place, ils s'en foutent que t'aies fait le Comedy Club. Ils ont plus de répartie que toi et ils te charrient, ils te vannent.
Ah,
Et moi, à un
c'est
moment, j'ai fait un marathon de chicha, je m'étais lancé dans ce délire parce que économiquement, on va dire ce qui est, c'est intéressant. Et
c'est sûr.
en une semaine, je me suis fait 300, 400 euros. Bien sûr, c'est au black, c'est pas déclaré. Et j'avais joué, je m'étais préparé, entraîné, c'était vraiment dur et tout. Et en règle générale, toutes les chichas que j'ai faites se sont bien passées, plus ou moins. Et il y a une chicha, ça s'est tellement bien passé que le mec il m'a dit, bon, la prochaine fois, tu reviens, c'est toi qui anime, c'est toi qui gères, c'est toi le guest. Et mec, j'étais tellement en confiance, je suis arrivé en mode terrain conquis. Certains mecs m'ont reconnu, machin et tout, genre j'étais en mode, je suis la star. Sachant que la première fois que je suis passé dans cette chicha, j'ai fait un personnage et ça avait cartonné. Et là, je suis venu en mode moi-même et tout, en mode confiance. Je me suis pris un de ces bides, mais royal, genre. Et ils ont vraiment pas de cœur parce que pour eux, ils s'en foutent. Oui, on t'a bien aimé il y a un mois. Là, tu nous fais pas rire. Dégage.
Le public de Chicha, c'est assez impitoyable. Ça les fait rire ou ça les fait pas rire, mais il n'y aura pas de rire de compassion, en fait.
Ouais. Et du coup, le mec ne m'a pas rappelé. Donc
D'accord.
voilà.
Ah, bah écoute, malheureusement, c'est dur et la chicha, c'est un des endroits les plus durs. Mais bon, on va dire que si tu arrives à faire rire dans une chicha, tu peux être sûr que ton matériel est bon. Après, ça ne veut pas dire, je pense qu'il faut préciser, ça ne veut pas dire que si tu sors un nouveau texte qui marche en chicha, il va forcément marcher autre part. Mais par contre, si un texte, tu le joues dans un endroit, une scène ouverte classique, et que ça cartonne, tu vas en chicha et ça cartonne, là, tu peux être sûr que ton texte, c'est du béton. Vraiment,
Ouais.
si ça marche sur les deux tableaux, tu vois. Mais je pense que beaucoup d'humoristes peuvent marcher en scène ouverte classique, tu vois, dans une scène classique, et bider en chicha,
Ouais.
et d'autres humoristes, qui sont moins nombreux, à mon avis, cartonnent en chicha. Et bide ou marchotte un peu sur les autres scènes, quoi.
Et il y a, pour rester sur l'univers des chichas, une fois j'avais joué dans une chicha, mais ghetto, et en fait j'ai eu un sentiment, mais tellement bizarre. En fait, j'avais la moitié du public qui rigolait, qui était avec moi, et l'autre moitié, mais vraiment l'autre moitié, qui m'insultait, qui me disait dégage, tu brûles, le charbon, qui me vannait et qui m'insultait. Et j'étais dans un truc, je ne savais pas quoi faire. J'avais une partie qui rigolait, qui m'encourageait, qui kiffait, qui était avec moi, puis les autres dégage, au suivant, tu fais pas rire, t'es pas drôle. Et je t'assure, t'as un truc, mais genre, t'es schizophrène, t'es là,
Ah,
mais
c'est
je
ça.
fais quoi, machin? Et du coup, tu essaies de te concentrer sur ceux qui rigolent et qui t'aiment bien, mais en même temps, tu as les autres qui veulent attirer ton attention et qui t'insultent. Donc, ouais, non, les chichas, c'est sportif. En plus, à Paris, ça commence méga tard. Genre, le mec, il te dit d'arriver à 22h. Meilleur des cas, ça commence à 23h, mais en général, ça commence à minuit, 1h du mat.
Plutôt
Donc, tu
ça, ouais.
rentres chez toi, il est 3-4h du mat. Et en gros, si t'as des difficultés pour dormir, ben là, t'as déréglé tout ton cycle de sommeil, machin, pour rattraper le boulot, la vie de tous les
C'est
jours.
ça,
C'est
c'est
compliqué,
ça.
quoi.
Ah. Mais moi, tu vois, j'avais fait une chicha une fois, ben, exactement comme toi au niveau financier, tu vois. C'est en gros, j'étais venu passer une semaine de scène sur Paris et je me suis dit, il y a une chicha et ça payait 100 euros. Je me suis dit, tiens, bah écoute, 100 euros, c'est cool, je peux y aller, même si je prends un bide, parce que de toute façon, je me doutais que je prendrais, je me doutais que j'allais pas cartonner, tu vois. Et donc, j'ai dit, même si ça se passe pas bien ou que je prends carrément un bide, c'est pas grave, ça va me rattraper, genre mon aller-retour, ça va me permettre de rentabiliser mon aller-retour, et voilà. Et donc, j'y suis allé, et le truc, c'est que je suis sorti de cette chicha et j'ai voulu attraper le dernier métro et je l'ai raté. Ce qui fait que je me suis retrouvé en panique. Je ne savais pas quoi faire. J'avais plus de batterie sur mon portable en plus. J'ai
Ah
demandé
ouais.
un kebab. Ah, je te jure, j'ai demandé de l'aide à un kebab. Tu sais, c'est là où tu es content. Tu sais, quand tu es gros et en galère, tu es content de trouver un kebab. Je ne te cache pas. Et Ah donc j'ai demandé au mec, j'ai dit les gars s'il vous plaît, aidez-moi et tout, je suis pas d'ici, je connais pas Paris et tout. Et ils m'ont dit tu vas aller où ? Et je leur ai dit je dois rentrer à la Courneuve, j'étais logé chez un copain à la Courneuve, j'en profite pour le saluer. Et donc je devais aller là-bas et tout chez mon pote Kamel et je speed, je commence à dire comment on fait et tout. Et il me dit t'inquiète pas, il y a plus de métro mais il y a le bus de nuit. Et je dis ok, il y a un direct ou tu vois, et je crois qu'on était à Buzenval ou un truc comme ça, tu vois. Et je prends le bus de nuit avec lui. Il me dit non. Il me dit toi, tu vas descendre à tel endroit. Après, on va prendre un autre bus de nuit et tu vas descendre à tel endroit. Et il m'a donné tout un plan. Le pauvre, il a été adorable, le mec du kebab. Vraiment, il a été super. Et j'ai pris genre 2 ou 3 bus de nuit pour arriver à ma destination. Et franchement, c'était chaud. Le bus de nuit, tu sais, j'en entendais parler dans les sketchs et tout, machin. Ah, bus de nuit, genre, c'est le train fantôme, tu vois. Il y en a qui l'appellent
la cour
train fantôme,
des miracles, tu vois.
Voilà, la cour des miracles.
Et ben, tu là, vois, des bobos, des voyous, des fous, des SDF.
Ouais, c'est bon. J'avais coché toutes les cases, moi, tu vois, j'avais tout. J'avais vraiment. J'osais même pas aller regarder dans les yeux et tout, machin. Je flippais. Tout ce que je voulais, c'était arriver en vie chez mon pote. J'ai réussi, mais il y avait du chelou quand même. Il y en a plein, j'ai pas fait attention à eux parce que ça commençait à gueuler et tout machin, il me parlait pas à moi, tu vois, mais c'était une ambiance bizarre. Et donc je suis rentré tard. C'est vrai que c'est le défaut des chichas, ça, c'est que ça termine tard. Donc si t'as pas de voiture, si t'es pas motorisé, c'est compliqué.
Ou tu prends un Uber. Moi, ce que je faisais, je prenais un Uber, mais après ça peut vite te revenir cher. C'est que tu manges là-bas, tu kiffes. En général, dans les chichas haut de gamme, ils t'offrent à boire, ils te mettent bien machin. Mais bon, après, t'as envie de manger, t'as envie machin, il n'y a plus les transports, tu rentres en Uber. Ben, du coup, tu as gagné de l'argent, mais tu dépenses l'argent que tu as gagné, quoi.
Et ben, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, tu vois, moi, mes 100 euros, si j'avais pris un Uber pour rentrer, je pense que j'en aurais eu pour peut-être 40 ou 45 euros de Uber, tu vois.
Ouais.
Donc, ça m'aurait bouffé quasiment la moitié de ce que j'ai gagné. Bon, ça restait quand même intéressant, mais voilà, quoi. Là, je m'en suis sorti avec 2 ou 3 tickets. Ça allait, ça va, je m'en suis tiré à 6 euros quoi, au final, tu vois.
Puis les chichas, ils n'ont pas beaucoup de gens qui veulent jouer. Hein. Il n'y a que les humoristes tout terrain ou ceux qui sont un peu en mode street qui arrivent à aller là-bas et régulièrement. Mais ils sont en demande de nouveaux humoristes. Hein. Puis c'est en mode charriage, machin. Et moi, quand je faisais ça à l'époque, je kiffais, mais ça me décalait toute ma vie et c'est fatigant, quoi. Puis ouais, chicha, ça fume. Donc tu rentres, tu pues le narguilé, tu t'es un peu défoncé, machin. Donc c'est
vrai que c'est un petit peu compliqué à ce niveau-là. Ouais. Mais après, c'est un choix. Moi, je te dis, c'était un choix financier quand j'y suis allé.
Oui. Personne ne le fait pour l'amour de l'art, je pense. Hein. C'est pour te challenger.
Et voilà, c'est plutôt ça.
Et en même temps, t'as un bon billet. Et en même temps, comme tu as dit, si tu fais rire en chicha, les scènes ouvertes, les plateaux, les spectacles, tu peux que gérer parce que tu as fait le plus ouf.
Bah, je pense que ça peut être, tu vois, la validation suprême. Après, il ne faut pas confondre parce que c'est vrai que tu peux avoir un set qui cartonne en chicha et après, tu vas le jouer sur une autre scène et ça ne va pas passer parce que, tu sais, les autres scènes, c'est plus conventionnel et tout.
Ouais.
La chicha, comme tu l'as dit, il faut être en mode street, il faut être rentre dedans.
Ils aiment l'interaction. C'est vrai que les chichas, ils aiment l'interaction. Et si tu fais un seul en scène ou un one-man show, il faut que tu aies des bons sketchs. Parce que le public, il est là pour rigoler, il n'a pas forcément envie de parler avec toi, ben, il faut que tu lui en donnes. Oui, après, tu as l'autre côté, c'est les théâtres où le mec, il paye 35 balles pour voir un spectacle. Il veut voir un spectacle. Il ne veut pas voir un mec qui va lui parler.
C'est ça. Mais en fait, je pense qu'en règle générale, un sketch qui est taillé pour une chicha ne sera pas forcément bon sur un théâtre et un sketch qui est taillé pour un théâtre ne sera pas forcément bon en chicha. Mais par contre, comme je disais tout à l'heure, si jamais ton sketch en chicha cartonne et que sur scène, dans un théâtre plus classique, cartonne aussi, là, je te dis, tu tiens une pépite. C'est un truc, il faut que tu le gardes, ce morceau-là, et vraiment, il est validé de ouf, quoi.
Ouais, et puis ça te renforce, quoi. Ça te donne plus de confiance, t'es plus sûr de toi. Mais
c'est le côté challenge que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire arriver à cartonner en chicha, c'est un peu battre le boss de fin, tu vois.
Ouais.
Merci beaucoup Mehdi pour ces belles anecdotes. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux?
@MehdiJohnson, MeDiJohnson. Je suppose que tu vas le mettre sur l'épisode. Puis sur Facebook. Après, moi, je suis surtout actif sur Instagram. Après, ça dépend, mais ouais, plus Instagram. Voilà.
D'accord. Donc sinon, après, tu as une page Facebook.
Oui, pareil, Mehdi.Johnson. Snapchat, c'est Mehdi-Johnson.
D'accord, bah écoute, j'essaierai de te trouver aussi sur Snapchat. Tu as aussi YouTube et Twitter?
Twitter, Mehdi Johnson. Et d'accord. YouTube, pareil, Mehdi Johnson.
Ok, bah c'est noté, merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.